Alexandre Dumas, La Dame de Montsoreau, tome 1er, chapitre 1er, Les noces de Saint-Luc. Le dimanche gras de l'année 1578, après la fête du populaire et tandis que s'éteignaient dans les rues les rumeurs de la joyeuse entrée, commençait une fête splendide dans le magnifique hôtel que venait de se faire bâtir de l'autre côté de l'eau et presque en face du Louvre, cette illustre famille de Montmorency, qui, alliée à la royauté de France, marchait l'égal des familles princières. Cette fête particulière, qui succédait à la fête publique, avait pour but de célébrer les noces de François de Saint-Luc, grand ami du roi Henri III, et l'un de ses favoris les plus intimes, avec Jeanne de Cossé-Brissac, fille du maréchal de France de ce nom. Le repas avait lieu au Louvre, et le roi, qui avait consenti à grand-peine au mariage, avait paru au festin avec un visage sévère qui n'avait rien d'approprié à la circonstance. Son costume, en outre, paraissait en harmonie avec son visage. C'était ce costume marron foncé sous lequel Clouet nous l'a montré, assistant aux noces de Joyeuse, et cette espèce de spectre royal, sérieux jusqu'à la majesté, avait glacé d'effroi tout le monde, et surtout la jeune mariée, qu'il regardait fort de travers toutes les fois qu'il la regardait. Cependant, cette attitude sombre du roi, au milieu de la joie de cette fête, ne semblait étrangère à personne, car la cause en était un des secrets de cour que tout le monde côtoie avec précaution, comme ces écueils à fleurs d'eau auxquels on est sûr de se briser en les touchant. À peine le repas terminé, le roi s'était levé brusquement, et force avait été aussitôt à tout le monde, même à ceux qui avouaient tout bas leur désir de rester à table, de suivre l'exemple du roi. Alors Saint-Luc avait jeté un long regard sur sa femme, comme pour puiser du courage dans ses yeux, et s'approchant du roi, « Sire, dit-il, votre majesté me fera-t-elle l'honneur d'accepter les violons que je veux lui donner à l'hôtel de Montmorency ce soir ?» Henri III s'était alors retourné avec un mélange de colère et de chagrin, et comme Saint-Luc, courbé devant lui, l'implorait avec une voix des plus douces et une mine des plus engageantes. « Oui, monsieur, avait-il répondu, nous irons, quoique vous ne méritiez certainement pas cette preuve d'amitié de notre part. » Alors mademoiselle de Brissac, devenue madame de Saint-Luc, avait remercié humblement le roi, mais Henri avait tourné le dos sans répondre à ses remerciements. « Qu'a donc le roi contre vous, monsieur de Saint-Luc ? » avait alors demandé la jeune femme à son mari. « Bel ami, répondit Saint-Luc, je vous raconterai cela plus tard, quand cette grande colère sera dissipée. » « Et se dissipera-t-elle ? » demanda Jeanne. « Il le faudra bien, répondit le jeune homme. » Mademoiselle de Brissac n'était point encore assez madame de Saint-Luc pour insister. Elle renfonça sa curiosité au fond de son cœur, se promettant de trouver, pour dicter ses conditions, un moment où Saint-Luc serait bien obligé de les accepter. On attendait donc Henri III à l'hôtel de Montmorency au moment où s'ouvre cette histoire que nous allons raconter à nos lecteurs. Or, il était 11 heures déjà, et le roi n'était pas encore arrivé. Saint-Luc avait convié à ce bal tout ce que le roi et tout ce que lui-même comptait d'amis. Il avait compris dans les invitations les princes et les favoris des princes, particulièrement ceux de notre ancienne connaissance, le duc d'Alençon, devenu duc d'Anjou à l'avènement d'Henri III au trône. Mais monsieur le duc d'Anjou, qui ne s'était pas trouvé au festin du Louvre, semblait ne pas devoir se trouver davantage à la fête de l'hôtel Montmorency. Quant au roi et à la reine de Navarre, il s'était, comme nous l'avons dit dans un ouvrage précédent, sauvé dans le Béarn et faisait de l'opposition ouverte en guerroyant à la tête des Huguenots. Monsieur le duc d'Anjou, selon son habitude, faisait aussi de l'opposition, mais de l'opposition sourde et ténébreuse, dans laquelle il avait toujours soin de se tenir en arrière, tout en poussant en avant ceux de ses amis que n'avait point guéri l'exemple de La Mole et de Coconas, dont nos lecteurs sans doute n'ont point encore oublié la terrible mort. Il va sans dire que ces gentilshommes et ceux du roi vivaient dans une mauvaise intelligence qui amenait au moins deux ou trois fois des rencontres dans lesquelles il était bien rare que quelqu'un des combattants ne demeurât point mort sur place ou tout au moins grièvement blessé. Quant à Catherine, elle était arrivée au comble de ses vœux. Son fils bien-aimé était parvenu à ce trône qu'elle ambitionnait tant pour lui, ou plutôt pour elle, et elle régnait sous son nom, tout en ayant l'air de se détacher des choses de ce monde et de n'avoir plus souci que de son salut. Saint-Luc, tout inquiet de ne voir arriver aucune personne royale, cherchait à rassurer son beau-père, fort ému de cette menaçante absence. Convaincu, comme tout le monde, de l'amitié que le roi portait à Saint-Luc, il avait cru s'allier à une faveur, et voilà que sa fille, au contraire, épousait quelque chose comme une disgrâce. Saint-Luc se donnait mille peines pour lui inspirer une sécurité que lui-même n'avait pas, et ses amis Maugiron, Schomberg et Caylus, vêtus de leurs plus magnifiques costumes, tout raides dans leurs pourpoints splendides et dont les fraises énormes semblaient des plats supportant leurs têtes, ajoutaient encore à ses transes par leurs ironiques lamentations. « Eh, mon Dieu, mon pauvre ami, disait Jacques de Lévis, comte de Caylus, je crois en vérité que pour cette fois tu as perdu. Le roi t'en veut de ce que tu t'es moqué de ses avis, et monsieur d'Anjou t'en veut de ce que tu t'es moqué de son nez. » « Mais non, répondit Saint-Luc, tu te trompes, Caylus. Le roi ne vient pas parce qu'il a été faire un pèlerinage au minime du bois de Vincennes, et le duc d'Anjou est absent parce qu'il est amoureux de quelque femme que j'aurais oublié d'inviter. » « Allons donc, dit Maugiron, as-tu vu la mine que le roi faisait à dîner? Est-ce là la physionomie paterne d'un homme qui va prendre le bourdon pour faire un pèlerinage? Et quant au duc d'Anjou, son absence personnelle, motivée par la cause que tu dis, empêcherait-elle ses angevins de venir? En vois-tu un seul ici? Regarde, éclipse totale, pas même ce tranche-montagne de Bussy. » « Eh, messieurs, disait le duc de Brissac en secouant la tête d'une façon désespérée, cela me fait tout l'effet d'une disgrâce complète. En quoi donc, mon Dieu, notre maison, toujours si dévouée à la monarchie, a-t-elle pu déplaire à sa majesté ?» Et le vieux courtisan levait avec douleur ses deux bras au ciel. Les jeunes gens regardaient Saint-Luc avec de grands éclats de rire qui, bien loin de rassurer le maréchal, le désespéraient. La jeune mariée, pensive et recueillie, se demandait, comme son père, en quoi Saint-Luc avait pu déplaire au roi. Saint-Luc le savait, lui, et par suite de cette science était le moins tranquille de tous. Tout à coup, à l'une des deux portes par lesquelles on entrait dans la salle, on annonça le roi. « Ah ! S'écria le maréchal radieux, maintenant je ne crains plus rien, et si j'entendais annoncer le duc d'Anjou, ma satisfaction serait complète. » « Et moi, murmura Saint-Luc, j'ai encore plus peur du roi présent que du roi absent, car il ne vient que pour me jouer quelque mauvais tour, comme c'est aussi pour me jouer quelque mauvais tour que le duc d'Anjou ne vient pas. » Mais, malgré cette triste réflexion, il ne s'en précipita pas moins au devant du roi, qui avait enfin quitté son sombre costume marron et qui s'avançait, tout resplendissant de satin, de plumes et de pierreries. Mais au moment où apparaissait à l'une des portes le roi Henri III, un autre roi Henri III, exactement pareil au premier, vêtu, chaussé, coiffé, fraisé et gaudronné de même, apparaissait par la porte d'en face. De sorte que les courtisans, un instant emportés vers le premier, s'arrêtèrent comme le flot à la pile de l'arche et refluèrent en tourbillonnant du premier au second roi. Henri III remarqua le mouvement et, ne voyant devant lui que des bouches ouvertes, des yeux effarés et des corps pirouettant sur une jambe, « Ça, messieurs, qu'y a-t-il donc ? » demanda-t-il. Un long éclat de rire lui répondit. Le roi, peu patient de son naturel et en ce moment surtout peu disposé à la patience, commençait de froncer le sourcil, quand Saint-Luc s'approchant de lui, « Sire, dit-il, c'est Chicot, votre bouffon, qui s'est habillé exactement comme votre majesté et qui donne sa main à baiser aux dames. » Henri III se mit à rire. Chicot jouissait à la cour du dernier Valois d'une liberté pareille à celle dont jouissait, 30 ans auparavant, Triboulet à la cour de François Ier et dont devait jouir 40 ans plus tard Langely à la cour du roi Louis XIII. c'est que Chico n'était pas un fou ordinaire. Avant de s'appeler Chico, il s'était appelé De Chico. C'était un gentilhomme gascon qui maîtrisait, à ce qu'on assurait par monsieur de Mayenne, à la suite d'une rivalité amoureuse dans laquelle, tout simple gentilhomme qu'il était, il l'avait emporté sur ce prince, s'était réfugié près de Henri III, et qui payait, en vérité, quelquefois cruelle, la protection que lui avait donnée le successeur de Charles IX. « Hé, maître Chico, dit Henri, deux rois ici, c'est beaucoup. En ce cas, continue à me laisser jouer mon rôle du roi à ma guise, et joue le rôle du duc d'Anjou à la tienne. Peut-être qu'on te prendra pour lui, et qu'on te dira des choses qui t'apprendront non pas ce qu'il pense, mais ce qu'il fait. » En effet, dit le roi, en regardant avec humeur autour de lui, mon frère d'Anjou n'est pas venu. Mais raison de plus pour que tu le remplaces. C'est dit, je suis Henri et tu es François. Je vais trôner, tu vas danser. Je ferai pour toi toutes les singeries de la couronne, et toi, pendant ce temps-là, tu t'amuseras un peu, pauvre roi. Le regard du roi s'arrêta sur Saint-Luc. Tu as raison, Chico, je veux danser, dit-il. Décidément, pensa Brissac, je m'étais trompé en croyant le roi irrité contre nous. Tout au contraire, le roi est de charmante humeur. Et il courut à droite et à gauche, félicitant chacun et surtout se félicitant lui-même d'avoir donné sa fille à un homme jouissant d'une si grande faveur près de sa majesté. Cependant, Saint-Luc s'était rapproché de sa femme. Mademoiselle de Brissac n'était pas une beauté, mais elle avait de charmants yeux noirs, des dents blanches, une peau éblouissante. Tout cela lui composait ce qu'on peut appeler une figure d'esprit. « Monsieur, dit-elle à son mari, toujours préoccupée qu'elle était par une seule pensée, que me disait-on que le roi m'en voulait? Depuis qu'il est arrivé, il ne cesse de me sourire. Hein, ce n'est pas ce que vous me disiez au retour du dîner, chère Jeanne, car son regard alors vous faisait peur. » « Sa Majesté était sans doute mal disposée alors, dit la jeune femme. Maintenant c'est bien pis, interrompit Saint-Luc. Le roi rit, les lèvres serrées. J'aimerais bien mieux qu'il me montrât les dents. Jeanne, ma pauvre amie, le roi nous ménage quelque traître surprise. Oh, ne me regardez pas si tendrement, je vous prie, et même tournez-moi le dos. Justement, voici Maugiron qui vient à nous. Retenez-le, accaparez-le, soyez aimable avec lui. » « Savez-vous, monsieur, dit Jeanne en souriant, que voilà une étrange recommandation et que, si je la suivais à la lettre, on pourrait croire. « Ah, dit Saint-Luc avec un soupir, ce serait bien heureux qu'on le crût. » Et, tournant le dos à sa femme, dont l'étonnement était à son comble, il s'en alla faire sa cour à Chico, qui jouait son rôle de roi, mais, tout en dansant, ne perdait pas de vue Saint-Luc. Tantôt il l'appelait pour lui conter quelques remarques plaisantes qui, drôles ou non, avaient le privilège de faire rire Saint-Luc aux éclats. Tantôt il lui offrait dans son drageoir des pralines et des fruits glacés que Saint-Luc trouvait délicieux. Enfin, si Saint-Luc disparaissait un instant de la salle où était le roi pour faire les honneurs dans d'autres salles, le roi l'envoyait chercher aussitôt par un de ses parents ou de ses officiers, et Saint-Luc revenait sourire à son maître, qui ne paraissait content que lorsqu'il le revoyait. Tout à coup, un bruit, assez fort pour être remarqué au milieu du tumulte, frappa les oreilles de Henri. « Hé, dit-il, il me semble que j'entends la voix de Chico. Entends-tu, Saint-Luc, le roi se fâche ?»« Oui, sire, dit Saint-Luc, sans paraître remarquer l'allure de sa majesté, il se querelle avec quelqu'un, ce me semble. »« Voyez ce que c'est, dit le roi, et revenez incontinent me le dire. » Saint-Luc s'éloigna. En effet, on entendait Chico qui criait en nasillant, comme faisait le roi en certaines occasions, « J'ai fait des ordonnances somptuaires, cependant, mais si celles que j'ai faites ne suffisent pas, j'en ferai encore, j'en ferai tant qu'il y en aura assez. Si elles ne sont pas bonnes, elles seront nombreuses au moins. Par la corne de Belzébuth, mon cousin, 6 pages, monsieur de Bussy, c'est trop !» Et Chico, enflant ses joues, cambrant ses hanches et mettant le poing sur le côté, jouait le roi à s'y méprendre. « Que parle donc-t-il de Bussy ? » demanda le roi en fronçant le sourcil. Saint-Luc, de retour, allait répondre au roi, quand la foule, s'ouvrant, laissa voir 6 pages vêtus de drap d'or, couverts de colliers et portant sur la poitrine les armoiries de leur maître, toutes chatoyantes de pierreries. Derrière eux venait un homme jeune, beau et fier, qui marchait le front haut, l'œil insolent, la lèvre dédaigneusement retroussée, et dont le simple costume de velours noir tranchait avec les riches habits de ses pages. « Bussy, disait-on, Bussy d'Amboise !» Et chacun courait au-devant du jeune homme qui causait cette rumeur et se rangeait pour le laisser passer. Maugiron, Schomberg et Kélus avaient pris place aux côtés du roi comme pour le défendre. « Tiens, dit le premier, faisant allusion à la présence inattendue de Bussy et à l'absence continue du duc d'Alençon auquel Bussy appartenait. Tiens, voici le valet et l'on ne voit pas le maître. » « Patience, répondit Kélus devant le valet, il y avait les valets du valet. Le maître du valet peut être derrière le maître des premiers valets. « Vois donc, Saint-Luc, dit Schomberg, le plus jeune des mignons du roi Henri, et avec cela un des plus braves. Sais-tu que monsieur de Bussy ne te fait guère honneur? Regarde donc ce pourpoint noir. Mordieu, est-ce là un habit de noces ?»« Non, dit Kélus, mais c'est un habit d'enterrement. » « Ah !» murmura Henri, « connaisse le sien et que ne le porte-t-il d'avance sur son propre deuil ?»« Avec tout cela, Saint-Luc, dit Maugiron, monsieur d'Anjou ne suit pas Bussy. Serais-tu aussi en disgrâce de ce côté-là » Le « aussi » frappa Saint-Luc au cœur. « Pourquoi donc suivrait-il Bussy ?» répliqua Kélus. « Ne vous rappelez-vous plus que lorsque sa majesté fit l'honneur de demander à monsieur de Bussy s'il voulait être à elle, monsieur de Bussy lui fit répondre que, étant de la maison de Clermont, il n'avait besoin d'être à personne et se contenterait purement et simplement d'être à lui-même, certain qu'il se trouverait meilleur prince que qui que ce fût au monde. » Le roi fronça le sourcil et mordit sa moustache. « Cependant, quoi que tu dises, reprit Maugiron, il est bien monsieur d'Anjou, ce me semble. » « Alors, riposta flegmatiquement Kélus, c'est que monsieur d'Anjou est plus grand seigneur que notre roi. » Cette observation était la plus poignante que l'on pût faire devant Henri, lequel avait toujours fraternellement détesté le duc d'Anjou. Aussi, quoiqu'il ne répondît pas le moindre mot, le vit-on pâlir. « Allons, allons, messieurs, hasarda en tremblant Saint-Luc, un peu de charité pour mes convives, ne gâtez pas mon jour de noces. » Ces paroles de Saint-Luc ramenèrent probablement Henri à un autre ordre de pensée. « Oui, dit-il, ne gâtons pas le jour des noces de Saint-Luc, messieurs. » Et il prononça ces paroles en frisant sa moustache avec un air narquois qui n'échappa point au pauvre marié. « Tiens, s'écria Schoenberg, Bussy est donc allié des Brissac à cette heure. « Pourquoi cela ?» dit Maugiron. « Et puisque voilà Saint-Luc qu'il défend, que diable ! Dans ce pauvre monde où l'on a assez de se défendre soi-même, on ne défend, ce me semble, que ses parents, ses alliés et ses amis. « Monsieur, dit Saint-Luc, monsieur de Bussy n'est ni mon allié, ni mon ami, ni mon parent. Il est mon hôte. » Le roi lança un regard furieux à Saint-Luc. Et d'ailleurs, se hâta de dire celui-ci, foudroyé par le regard du roi, « Je ne le défends pas le moins du monde. » Bussy s'était rapproché gravement derrière les pages et allait saluer le roi, quand Chicot, blessé qu'on donna à d'autres qu'à lui la priorité du respect, s'écria « Hé là là, Bussy, Bussy d'Amboise, Louis de Clermont, comte de Bussy, puisqu'il faut absolument te donner tous tes noms pour que tu reconnaisses que c'est à toi que l'on parle. Ne vois-tu pas que le vrai Henri est ici? Ne distingues-tu pas le roi du fou? Celui à qui tu vas, c'est Chicot, c'est mon fou, mon bouffon, celui qui fait tant de sottises que parfois j'en pâme de rire. » Bussy continuait son chemin. Il se trouvait en face de Henri, devant lequel il allait s'incliner, lorsque Henri lui dit « N'entendez-vous pas, monsieur de Bussy, on vous appelle ?» Et au milieu des éclats de rire de ses mignons, il tourna le dos au jeune capitaine. Bussy rougit de colère, mais réprimant son premier mouvement, il feignit de prendre au sérieux l'observation du roi, et sans paraître avoir entendu les éclats de Kélus, de Schomberg et de Maugiron, sans paraître avoir vu leur insolent sourire, il se retourna vers Chicot. « Ah, pardon, sire, dit-il, il y a des rois qui ressemblent tellement à des bouffons que vous m'excuserez, je l'espère, d'avoir pris votre bouffon pour un roi. »« Hein ?» murmura Henri en se retournant. « Que dit-il donc ?»« Rien, sire, dit Saint-Luc, qui semblait pendant toute cette soirée avoir reçu du ciel la mission de pacificateur. Rien, absolument rien. » « N'importe, maître Bussy, dit Chicot, en se dressant sur la pointe du pied comme faisait le roi lorsqu'il voulait se donner de la majesté. C'est impardonnable. » Sire, répliqua Bussy, pardonnez-moi, j'étais préoccupé. De vos pages, monsieur, dit Chicot avec humeur, vous vous ruinez en pages, et par la mordieu, c'est empiéter sur nos prérogatives. Comment cela, dit Bussy, qui comprenait qu'en prêtant le collet au bouffon, le mauvais rôle serait pour le roi. Je prie votre majesté de s'expliquer, et si j'ai effectivement eu tort, eh bien, je l'avouerai en toute humilité. « Du drap d'or à ses maroufles !» dit Chicot en montrant du doigt les pages, « tandis que vous, un gentilhomme, un colonel, un Clermont, presque un prince, enfin, vous êtes vêtu de simples velours noirs. » Sire, dit Bussy en se tournant vers les mignons du roi, « c'est que, quand on vit dans un temps où les maroufles sont vêtus comme des princes, je crois de bon goût aux princes, pour se distinguer d'eux, de se vêtir comme des maroufles. » Et il rendit au jeune mignon, étincelant de parure, le sourire impertinent dont il l'avait gratifié un instant plus tôt. Henri regarda ses favoris pâlissant de fureur, qui semblaient n'attendre qu'un mot de leur maître pour se jeter sur Bussy, qu'Élus le plus animé de tous contre ce gentilhomme avec lequel il se fût déjà rencontré sans la défense expresse du roi, avait la main à la garde de son épée. « Est-ce pour moi et les miens que vous dites cela ?» s'écria Chicot, qui, ayant usurpé la place du roi, répondit ce que Henri eut dû répondre. Et le bouffon prit, en disant ces paroles, une pose de matamor si outrée que la moitié de la salle éclata de rire. L'autre moitié ne rit pas, et c'était tout simple, la moitié qui riait, riait de l'autre moitié. Cependant, trois amis de Bussy, supposant qu'il y allait peut-être y avoir Rix, étaient venus se ranger près de lui. C'était Charles Balzac d'Entragues, que l'on nommait plus communément Entragué, François Daudy, vicomte de Ribérac, et Livaro. En voyant ces préliminaires d'hostilité, Saint-Luc devina que Bussy était venu de la part de monsieur pour amener quelques scandales ou adresser quelques défis. Il trembla plus fort que jamais, car il se sentait pris entre les colères ardentes de deux puissants ennemis qui choisissaient sa maison pour champ de bataille. Il courut à Quélus, qui paraissait le plus animé de tous, et posant la main sur la garde de l'épée du jeune homme, « Au nom du ciel, lui dit-il, ami, modère-toi et attendons. » Parbleu, modère-toi toi-même, s'écria-t-il, le coup de poing de ce butor t'atteint aussi bien que moi. Qui dit quelque chose contre l'un de nous, dit quelque chose contre tous, et qui dit quelque chose contre nous tous, touche au roi. Quélus, Quélus, dit Saint-Luc, songe au duc d'Anjou, qui est derrière Bussy, d'autant plus aux aguets qu'il est absent, d'autant plus à craindre qu'il est invisible. Tu ne me fais pas l'affront de croire, je présume que j'ai peur du valet, mais du maître. Hé, mordieu, s'écria Quélus, qu'a-t-on à craindre quand on appartient au roi de France? Si nous nous mettons en péril pour lui, le roi de France nous défendra. Toi oui, mais moi, dit piteusement Saint-Luc. Ah, dame, dit Quélus, pourquoi diable aussi te maries-tu, sachant combien le roi est jaloux dans ses amitiés? Bon, dit Saint-Luc en lui-même, chacun songe à soi. Ne nous oublions donc pas, et puisque je veux vivre tranquille au moins pendant les 15 premiers jours de mon mariage, tâchons de nous faire un ami de monsieur d'Anjou. Et sur cette réflexion, il quitta Quélus et s'avança au-devant de Bussy. Après son impertinente apostrophe, Bussy avait relevé la tête et promené ses regards par toute la salle, dressant l'oreille pour recueillir quelque impertinence en échange de celle qu'il avait lancée. Mais tous les fronts s'étaient détournés, toutes les bouches étaient demeurées muettes. Les uns avaient peur d'approuver devant le roi, les autres d'improuver devant Bussy. Ce dernier, voyant Saint-Luc s'approcher, crut enfin avoir trouvé ce qu'il cherchait. « Monsieur, dit Bussy, est-ce à ce que je viens de dire, que je dois l'honneur de l'entretien que vous paraissez désirer ?»« À ce que vous venez de dire, demanda Saint-Luc de son air le plus gracieux. Que venez-vous donc de dire? Je n'ai rien entendu, moi. Non, je vous avais vu, et je désirais avoir le plaisir de vous saluer et de vous remercier en vous saluant de l'honneur que fait votre présence à ma maison. » Bussy était un homme supérieur en toutes choses, brave jusqu'à la folie, mais lettré, spirituel et de bonne compagnie. Il connaissait le courage de Saint-Luc et comprit que le devoir du maître de maison l'emportait en ce moment sur la susceptibilité du raffiné. À tout autre, il lui répétait sa phrase, c'est-à-dire sa provocation. Mais il se contenta de saluer poliment Saint-Luc et de répondre quelques mots gracieux à son compliment. Oh, dit Henri, voyant Saint-Luc près de Bussy, je crois que mon jeune coq a été chanté pouille au capitan. Il a bien fait, je ne veux pas qu'on me le tue. Allez donc voir, Quélus. Non, pas vous, Quélus, vous avez trop mauvaise tête. Allez donc voir, Maugiron.
Que lui as-tu dit à ce fat de Bussy ? Demanda le roi.
Moi, sire ?
Oui, toi.
Je lui ai dit bonsoir, fit Saint-Luc.
Ah, voilà tout, maugréa le roi.
Saint-Luc s'aperçut qu'il avait fait une sottise.
Je lui ai dit bonsoir, reprit-il, en ajoutant que j'aurais l'honneur de lui dire bonjour demain matin.
Bon, fit Henri, je m'en doutais, mauvaise tête.
Mais veuille votre gracieuse majesté me garder le secret, ajouta Saint-Luc en affectant de parler bas.
Oh, pardieu, fit Henri III, ce n'est pas pour te gêner ce que j'en dis. Il est certain que si tu pouvais m'en défaire sans qu'il en résultât pour toi quelque égratignure.
Les mignons échangèrent entre eux un rapide regard que Henri III fit semblant de ne pas avoir remarqué.
Car enfin, continua le roi, le drôle est d'une insolence.
Oui, oui, dit Saint-Luc, cependant, un jour ou l'autre, soyez tranquille, sire, il trouvera son maître.
Fit le roi, secouant la tête de bas en haut, il tire rudement l'épée.
Que ne se fait-il mordre par quelque chien enragé? Cela nous en débarrasserait bien plus commodément.
Et il jeta un regard de travers sur Bussy, qui, accompagné de ses trois amis, allait et venait, heurtant et raillant tous ceux qu'il savait être les plus hostiles au duc d'Anjou et, par conséquent, étaient les plus grands amis du roi.
« Corbleu ! S'écria Chicot, ne rudoyez donc pas ainsi, mais mignon gentilhomme, maître Bussy, car je tire l'épée, tout roi que je suis, ni plus ni moins que si j'étais un bouffon. »«
Ah, le drôle !» murmura Henri, « sur ma parole, il voit juste. »«
S'il continue de pareille plaisanterie, je châtierai Chicot, sire, » dit Maugiron.
« Ne t'y frotte pas, Maugiron, Chicot est gentilhomme et fort chatouilleux sur le point d'honneur. » D'ailleurs, ce n'est point lui qui mérite le plus d'être châtié, ce n'est pas lui le plus insolent. »
Cette fois, il n'y avait plus à s'y méprendre. Quélus fit signe à Do et à d'Épernon, qui, occupés ailleurs, n'avaient point pris part à tout ce qui venait de se passer.
« Messieurs, dit Quélus en les mettant à l'écart, venez au conseil. Toi, Saint-Luc, cause avec le roi et achève ta paix, qui me paraît heureusement commencée. »
Saint-Luc préféra ce dernier rôle et s'approcha du roi et de Chicot, qui étaient aux prises. Pendant ce temps, Quélus amenait ses quatre amis dans l'embrasure d'une fenêtre.
« Eh bien, demanda d'Épernon, voyons, que veux-tu dire? J'étais en train de faire la cour à la femme de Joyeuse, et je te préviens que, si ton récit n'est pas des plus intéressants, je ne te pardonne pas. »
« Je vais vous dire, messieurs, répondit Quélus, qu'après le bal, je pars immédiatement pour la chasse. »
« Bon, dit Do, et pour quelle chasse ?
Pour la chasse aux sangliers.
Quelle lubie te passe par la tête d'aller, du froid qui court, te faire éventrer dans quelque taillis ?
N'importe, j'y vais.
« Seul ? Ah non pas, avec Maugiron et Schomberg, que nous chassons pour le roi. »«
Ah oui, je comprends, dirent ensemble Schomberg et Maugiron.
Le roi veut qu'on lui serve demain une hure de sanglier à son déjeuner. »
Avec un collet renversé à l'italienne, dit Maugiron, faisant allusion au simple rabattu qu'en opposition aux fraises des mignons portait Bussy.
Ah ah, dit d'Épernon, bon, j'en suis alors.
De quoi donc s'agit-il ? Demanda Do, je n'y suis pas du tout, moi.
Regarde autour de toi, mon mignon.
Bon, je regarde. Y a-t-il quelqu'un qui t'ait ri au nez ?
Bussy, ce me semble.
Eh bien, ne te paraît-il pas que c'est là un sanglier dont la hure serait agréable au roi ?
Tu crois que le roi, dit Do,
c'est lui qui la demande, répondit Quélus.
Eh bien, soit, en chasse, mais comment chasserons-nous ?
À l'affût, c'est plus sûr.
Bussy remarqua la conférence et, ne doutant pas qu'il ne fût question de lui, il s'approcha en ricanant avec ses amis.
« Regarde donc, Entraguet, regarde donc, Ribérac, dit-il, comme les voilà groupés. C'est touchant. On dirait Eurial et Nisus, Damon et Pythias, Castor et...
Mais où est donc Pollux ?»«
Pollux se marie, dit Entraguet, de sorte que voilà Castor dépareillé. »«
Que peuvent-ils faire là ?» demanda Bussy en les regardant insolemment.
« Gageons, dit Ribérac, qu'ils complotent quelque nouvel amidon. »
« Non, messieurs, dit en souriant Quélus, nous parlons chasse. »
Vraiment, seigneur Cupido, dit Bussy, il fait bien froid pour chasser, cela vous gercera la peau.
Monsieur, répondit Mougiron avec la même politesse, nous avons des gants très chauds et des pourpoints doublés de fourrure.
Ah, cela me rassure, dit Bussy, est-ce bientôt que vous chassez?
Cette nuit peut-être, dit Schomberg.
Il n'y a pas de peut-être, cette nuit sûrement, ajouta Mougiron.
En ce cas, je vais prévenir le roi, dit Bussy. Que dirait sa majesté si demain, à son réveil, elle allait trouver ses amis enrhumés?
Ne vous donnez pas la peine de prévenir le roi, monsieur, dit Kélus. Sa majesté sait que nous chassons.
L'alouette, fit Bussy, avec une mine interrogatrice des plus impertinentes.
Non, monsieur, dit Kélus, nous chassons le sanglier. Il nous faut absolument une hure.
Et l'animal, demanda Entragué.
Et détourné, dit Schomberg.
Mais encore faut-il savoir où il passera, demanda Livaro.
Nous tâcherons de nous renseigner, dit Do. Chassez-vous avec nous, monsieur de Bussy?
Non, répondit celui-ci, continuant la conversation sur le même mode.
Non, en vérité, je suis empêché. Demain, il faut que je sois chez monsieur d'Anjou pour la réception de monsieur de Montsoreau, à qui monseigneur, comme vous le savez, a fait accorder la place de grand veneur.
« Mais cette nuit, » demanda Kélus.
« Ah, cette nuit, je ne puis encore, j'ai un rendez-vous dans une mystérieuse maison du faubourg Saint-Antoine. »«
Ah, » fit d'Épernon, « est-ce que la reine Margot serait incognito à Paris, monsieur de Bussy, car nous avons appris que vous aviez hérité de la Mole ?»«
Oui, mais depuis quelque temps, j'ai renoncé à l'héritage, et c'est d'une autre personne qu'il s'agit. »
« Et cette personne vous attend rue du Faubourg Saint-Antoine ?» demanda Do.
« Justement, je vous demanderai même un conseil, monsieur de Kélus.
Dites, quoique je ne sois pas avocat, je me pique de ne pas les donner mauvais, surtout à mes amis. »
« On dit les rues de Paris peu sûres. Le Faubourg Saint-Antoine est un quartier fort isolé. Quel chemin me conseillez-vous de prendre ?»
« Dame, dit Kélus, comme le batelier du Louvre passera sans doute la nuit à nous attendre, à votre place, monsieur, je prendrai le petit bac du Pré-au-Clair. Je me ferai descendre à la tour du coin, je suivrai le quai jusqu'au Grand Châtelet, et par la rue de la Tixanderie, je gagnerai le faubourg Saint-Antoine. Une fois au bout de la rue Saint-Antoine, si vous passez l'hôtel des Tournelles sans accident, il est probable que vous arriverez sain et sauf à la mystérieuse maison dont vous parliez tout à l'heure. »
Merci de l'itinéraire, monsieur de Kélus, dit Boissy. Vous dites le bac du Pré-au-Clair, la tour du coin, le quai jusqu'au Grand Châtelet, la rue de la Tixanderie et la rue Saint-Antoine. On ne s'en écartera pas d'une ligne, soyez tranquille.
Et saluant les cinq amis, il se retira en disant tout haut à Balzac d'Entrague,
décidément, Entragué, il n'y a rien à faire avec ces gens-là, allons-nous-en.
Livaro et Ribérac se mirent à rire, suivant Bussy et d'Entrague qui s'éloignèrent, mais qui, en s'éloignant, se retournèrent plusieurs fois. Les mignons demeurèrent calmes, ils paraissaient décidés à ne rien comprendre.
Comme Bussy allait franchir le dernier salon où se trouvait madame de Saint-Luc, qui ne perdait pas des yeux son mari, Saint-Luc lui fit un signe, montrant de l'œil le favori du duc d'Anjou qui s'éloignait. Jeanne comprit avec cette perspicacité qui est le privilège des femmes, et courant au gentilhomme, elle lui barra le passage.
« Oh, monsieur de Bussy, dit-elle, il n'est bruit que d'un sonnet que vous avez fait à ce qu'on assure. »«
Contre le roi, madame ?» demanda Bussy.
« Non, mais en l'honneur de la reine.
Oh, dites-le-moi. »«
Volontiers, madame, dit Bussy. »
Et offrant son bras à madame de Saint-Luc, il s'éloigna en récitant le sonnet demandé. Pendant ce temps, Saint-Luc s'en revint tout doucement du côté des mignons, et il entendit Kélus qui disait
« L'animal ne sera pas difficile à suivre avec de pareils brisés. Allons donc à l'angle de l'hôtel des Tournelles, près de la porte Saint-Antoine, en face de l'hôtel Saint-Paul. »
« Avec chacun un laquais ?» demanda d'Épernon.
« Non pas, Nogaret, non pas, dit Kélus, soyons seuls, sachons seuls notre secret, faisons seuls notre besogne. Je le hais, mais j'aurais honte que le bâton d'un laquais le touchât, il est trop bon gentilhomme. »
« Sortirons-nous tous les six ensemble ?» demanda Mougiron.
« Tous cinq, et non pas tous six, dit Saint-Luc.
« Ah, c'est vrai, nous avions oublié que tu avais pris femme, nous te traitions encore en garçon, dit Schomberg. »
« En effet, reprit Do, c'est bien le moins que le pauvre Saint-Luc reste avec sa femme la première nuit de ses noces.
Vous n'y êtes pas, messieurs, dit Saint-Luc, ce n'est pas ma femme qui me retient, quoique, vous en conviendrez, elle en vaille bien la peine. C'est le roi.
Comment le roi?
Oui, sa majesté veut que je la reconduise au Louvre.
Les jeunes gens le regardèrent avec un sourire que Saint-Luc chercha vainement à interpréter.
Hein, que veux-tu, dit Quélus, le roi te porte une si merveilleuse amitié qu'il ne peut se passer de toi.
Oh, d'ailleurs, nous n'avons pas besoin de Saint-Luc, dit Schomberg. Laissons-le donc à son roi et à sa dame.
La bête est lourde, fit d'Épernon.
Bah, fit Quélus, comme la mette bien en face d'elle, qu'on me donne un épieu, j'en fais mon affaire.
On entendit la voix de Henri qui appelait Saint-Luc.
Messieurs, dit-il, vous l'entendez, le roi m'appelle. Bonne chasse, au revoir.
Et il les quitta aussitôt.
Mais au lieu d'aller au roi, il se glissa le long des murailles, encore garnies de spectateurs et de danseurs, et gagna la porte que touchait déjà Bussy, retenu par la belle mariée, qui faisait de son mieux pour ne pas le laisser sortir.
« Ah, bonsoir, monsieur de Saint-Luc, dit le jeune homme, mais comme vous avez l'air effaré, est-ce que par hasard vous seriez de la grande chasse qui se prépare? Ce serait une preuve de votre courage, mais ce n'en serait pas une de votre galanterie. »
« Monsieur, répondit Saint-Luc, j'avais l'air effaré, parce que je vous cherchais. »«
Ah, vraiment ? Et que j'avais peur que vous ne fussiez parti. Cher Jeanne, ajouta-t-il, dites à votre père qu'il tâche d'arrêter le roi. Il faut que je dise deux mots en tête-à-tête avec monsieur de Bussy. »
Jeanne s'éloigna rapidement. Elle ne comprenait rien à toutes ces nécessités, mais elle s'y soumettait parce qu'elle les sentait importantes.
« Que voulez-vous me dire, monsieur de Saint-Luc ? » demanda Bussy.
« Je voulais vous dire, monsieur le comte, répondit Saint-Luc, que si vous aviez quelque rendez-vous ce soir, vous feriez bien de le remettre à demain, attendu que les rues de Paris sont mauvaises et que si ce rendez-vous, par hasard, devait vous conduire du côté de la Bastille, vous feriez bien d'éviter l'hôtel des Tournelles, où il y a un renfoncement dans lequel plusieurs hommes peuvent se cacher. Voilà ce que j'avais à vous dire, monsieur de Bussy. Dieu me garde qu'un homme comme vous puisse avoir peur. Cependant, réfléchissez. »
En ce moment, on entendait la voix de Chicot qui criait
« Saint-Luc, mon petit Saint-Luc, voyons, ne te cache pas comme tu le fais, tu vois que je t'attends pour rentrer au Louvre. »
« Sire, me voici, répondit Saint-Luc en s'élançant dans la direction de la voix de Chicot. Près du bouffon était Henri III, auquel un page tendait déjà le lourd manteau fourré d'hermine, tandis qu'un autre lui présentait de gros gants montant jusqu'au coude, et un troisième, le masque de velours doublé de satin.
« Sire, dit Saint-Luc en s'adressant à la fois aux deux Henri, je vais avoir l'honneur de porter le flambeau jusqu'à vos litières. »
« Point du tout, dit Henri. Chicot va de son côté, moi du mien. Mes amis sont tous des vauriens qui me laissent retourner seul au Louvre tandis qu'ils courent le carême prenant. J'avais compté sur eux et les voilà qui me manquent. Or, tu comprends que tu ne peux pas me laisser partir ainsi. Tu es un homme grave et marié, tu dois me ramener à la reine. Viens, mon ami, viens. Holà, un cheval pour monsieur de Saint-Luc.
Non pas, c'est inutile, ajouta-t-il en se reprenant. Ma litière est large, il y a place pour deux. »
Jeanne de Brissac n'avait pas perdu un mot de cet entretien. Elle voulut parler, dire un mot à son mari, prévenir son père que le roi enlevait Saint-Luc, mais Saint-Luc, plaçant un doigt sur sa bouche, l'invita au silence et à la circonspection.
« Peste, dit-il tout bas, maintenant que je me suis ménagé François d'Anjou, n'allons pas nous brouiller avec Henri de Valois.
Sire, ajouta-t-il tout haut, me voici, je suis si dévoué à votre majesté que si elle me l'ordonnait, je la suivrai jusqu'au bout du monde. »
Il y eut grand tumulte, puis grande génuflexion, puis grand silence, pour ouïr les adieux du roi à mademoiselle de Brissac et à son père. Ils furent charmants. Puis les chevaux piaffèrent dans la cour, les flambeaux jetèrent sur les vitraux leurs rouges reflets. Enfin, moitié riant, moitié grelottant, s'enfuirent dans l'ombre et la brume tous les courtisans de la royauté et tous les conviés de la noce. Jeanne, demeurée seule avec ses femmes, entra dans sa chambre et s'agenouilla devant l'image d'une sainte en laquelle elle avait beaucoup de dévotion. Puis elle ordonna qu'on la laissât seule et qu'une collation fût prête pour le retour de son mari.
Monsieur de Brissac fit plus, il envoya six gardes attendre le jeune marié à la porte du Louvre afin de lui faire escorte lorsqu'il reviendrait. Mais au bout de 2 heures d'attente, les gardes envoyèrent un de leurs compagnons prévenir le maréchal que toutes les portes étaient closes au Louvre et qu'avant de fermer la dernière, le capitaine du guichet avait répondu « N'attendez point davantage, c'est inutile, personne ne sortira plus du Louvre cette nuit, sa majesté est couchée et tout le monde dort ». Le maréchal avait été porter cette nouvelle à sa fille, qui avait déclaré qu'elle était trop inquiète pour se coucher et qu'elle veillerait en attendant son mari.